Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Eh bien, dans les studios aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le monsieur derrière les bouteilles de Pommery Champagne, Thierry Gascot. Bonjour.
Bonjour Christophe.
C'est un beau petit résumé, vous êtes le monsieur derrière les bouteilles de Pommery.
Quelque part, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup d'enfants, moi, et qui sont en cave en général. Oui. Quelques 30 millions de bouteilles qui s'y trouvent.
30 millions.
30 millions, oui, tout à fait. Oui.
C'est la
règle chez Pommery, ça. 30 voilà, millions.
C'est par tranche de 30 millions.
C'est ça, mais par tranche de millions, voilà. Donc on a la 30, là.
Racontez-nous un petit peu l'histoire de Pommery. C'est un champagne qu'on connaît assez bien en Australie.
Oui.
Donc c'est une maison de champagne installée en France, dans la région de Champagne à Reims.
Tout à fait. Et donc c'est une maison que je dirais qui est une maison historique, puisqu'elle a été créée en 1836. Donc j'étais pas corné, vous vous en doutez. Je suis que le 9e chef de cave de cette maison malgré tout, et cette maison donc créée en 1836 a vu un très très grand développement à partir du moment où Madame Pommery en a repris, je dirais, les rênes, comme on peut dire en France, hein. Et donc c'est suite au décès de son mari où elle a décidé, plutôt que de faire femme au foyer, de dire on va attaquer et on va aller sur les marchés. Alors sa première idée c'était de partir en Angleterre, là où elle avait fait ses études, et parce qu'elle connaissait bien le marché anglais et se doutait qu'il y aurait un beau développement de sa marque en Angleterre. Donc là, voilà partie en Angleterre, là, voilà embauché un jeune commercial qui, à 28 ans, parcourt la ville de Londres et tout le marché anglais. Et qui très rapidement lui fait comprendre que peut-être il serait un peu intéressant et important de voir un changement de style dans les vins de champagne. Et c'est de là qu'elle prend une grande décision. Et cette décision, c'est de dire il va falloir qu'on change le champagne, que ce champagne qui est normalement un champagne, je dirais, dosé, donc fortement sucré, puisqu'en Angleterre à l'époque les doses de sucre dans une bouteille étaient à peu près de 150 grammes par litre. Donc vous n'avez jamais dit. Qu'est-ce que ça peut représenter, peut-être, pour donner une explication?
On a des boissons aujourd'hui qui sont à ce niveau
de sucre. Oui, c'est ça. J'étais en train de chercher. Par exemple, vous prenez du Porto.
Ouais.
Le Porto est entre 140 et 160 grammes de sucre. Vous voyez, donc c'est quelque chose quand même qui est assez fortement chargé en sucre. Donc c'était à peu près ça que vous aviez à l'époque. Et puis tout doucement, il y a eu une volonté d'aller vers des dosages plus bas. Donc déjà certains négociants, certains producteurs avaient commencé à y regarder, mais sans aucun succès. Donc elle s'est dit, il va falloir trouver une solution. Donc la solution, elle a poussé son chef de cave de l'époque, qui était Olivier Damas. Olivier Damas, qui était donc le premier chef de cave de la maison, elle l'a poussé pour aller plus loin vers des produits, je dirais, différents. Et ces produits différents, ça devait commencer déjà au niveau du vignoble. Et donc aller chercher des raisins d'une très grande maturité, d'une belle maturité. Et ensuite, elle a compris aussi qu'elle devait faire quelque chose en termes d'investissement. Et l'investissement, c'était construire un domaine, un énorme domaine, pour pouvoir y stocker des vins, que ce soit des vins en vrac, comme on dit, donc en cuve, enfin à l'époque c'était pas en cuve, mais en tonneau, hein, et également pour avoir des capacités de stockage en bouteille pour pouvoir permettre du vieillissement. Et c'est le secret est passé par là, le vieillissement des vins en cave, en bouteille, qui a permis, le développement de la marque et qui a permis le développement surtout du brut en champagne. Donc le premier brut qui a été lancé, c'est le brut en 1874.
Eh ben, dis donc. Les femmes ont été très importantes dans l'histoire du champagne.
Ah, regardez, je suis entouré de deux femmes, ne serait-ce qu'ici déjà. Et que ça continue à l'être aujourd'hui encore. Voilà.
Non, parce que bon, il y a la veuve Clicquot, il y a Madame Pommery, ça a été important justement pour l'histoire du champagne en lui-même.
Je crois que les femmes en champagne, c'est vrai, ont permis un développement du champagne, peut-être plus que par les hommes, où on entend beaucoup plus parler. C'est vrai qu'il y a eu un dynamisme féminin important à cette époque, comme vous dites, il y a eu la veuve Clicquot. Alors celle-là, on n'en parlera pas aujourd'hui, on va parler de la veuve Pommery. Et c'est vrai que la veuve Pommery s'est fait connaître et reconnaître et respecter, j'irais, dans tout l'univers, j'irais, champagne. Champenois et national et international.
Ça,
c'était très important parce que, en fin de compte, elle a su apporter du nouveau, elle a su apporter, j'irais, du sang neuf à la Champagne. Elle avait un esprit très très visionnaire qui lui a permis de faire avancer la Champagne tout entière.
Le rôle de chef de cave est super important pour n'importe quelle marque de champagne. C'est vrai pour Pommery. Il y a une lignée de chef de cave, c'est-à-dire que vous pouvez retracer la lignée complète et vous vous sentez dans cette lignée.
Moi, je me sens et je pense et j'espère être compris comme tel, parce que quelque part, dans une maison de champagne, vous devez respecter un style. Le style a été initié par Madame Pommery, qui a voulu donner cette notion d'un vin frais, d'un vin élégant, d'un vin très, je dirais, riche et très, avec une belle vivacité. Donc tout ceci a été transmis de génération en génération de chefs de cave. Moi-même, donc, je suis arrivé il y a 22 ans dans la société, et donc ma première mission, c'était de m'imprégner du style Pommery, mais non pas uniquement au niveau de ses vins, mais de l'ambiance Pommery quelque part, hein, pour pouvoir me sentir réellement dans Pommery, dans le cœur de Pommery.
On prend ça comme une œuvre d'une vie, avec un peu de recul.
Moi, je l'ai pris comme tel, parce que c'est vrai que le recul, j'en ai un petit peu maintenant aujourd'hui quelque part, et c'est vrai que pour moi, c'est une œuvre d'une vie, parce qu'en fin de compte, comme je le dis souvent, pour moi, élaborer un vin, c'est pas un métier, c'est une passion. Donc pour moi, je vis cette passion, c'est la passion selon Pommery.
D'accord.
Là, d'autres que des passions selon les apôtres, moi, c'est la passion selon Pommery.
Et donc, ça veut dire que vous êtes dans la continuité de ce qui s'est fait avant. Est-ce qu'il y a quand même une certaine liberté dans votre travail d'emmener une touche créative? Il y a des choses. Est-ce que vous avez envie de changer un peu les choses? Est-ce que ça fait aussi partie du rôle?
Alors,
j'ai dit changer, pas chambouler. Hein.
On est d'accord. Non, j'entends bien votre question. Alors, il est évident qu'au niveau du Brut Royal, qui est le plus classique de la maison, nous avons bien sûr à respecter le style. Alors même si à la limite je l'ai fait un petit peu évoluer, et surtout être sûr d'avoir une très grande régularité dans le vin, ça c'était ma mission que je me suis fixée en arrivant, avoir la plus grande régularité possible dans le vin. Je pense que de ce côté-là, j'ai réussi mon pari. Ensuite, on a bien sûr la possibilité de s'exprimer autrement. Et s'exprimer autrement, c'est sous quelle forme? En créant de nouvelles cuvées, c'est ce que j'ai fait. Et ces nouvelles cuvées, quelque part, par contre, comme vous dites, j'étais pas là pour chambouler le monde et chambouler la maison Pommery. C'était de faire des cuvées qui soient dans le style de la maison, dans l'esprit maison. Donc j'ai voulu créer les champagnes de saison, par exemple, donc 4 produits alors qui n'ont pas été créés, je dirais, tous en même temps. Déjà les deux premiers, Summertime et Wintertime, et ensuite le Springtime et le Falltime. Tout ça dans l'esprit, je dirais, où j'essayais de redonner un petit peu mon ressenti sur de la nature au niveau du vin. Essayer de faire mon interprétation, je dirais, d'un petit peu des excès et des faiblesses et des défauts de la nature autour du vin. Voilà, donc c'est un petit peu ça, et ce qui veut dire que ça nous permet en plus de ça de faire des associations avec des plats qui peuvent être assez originales.
D'accord, c'est presque de l'impressionnisme.
Pourquoi pas, hein? Ouais, tout à fait. Alors là où je suis un petit peu gêné, c'est quand j'arrive en Australie, où je découvre qu'on est capable dans une même journée d'avoir les 4 saisons, donc il faut toujours avoir sa glacière avec 4 bouteilles à la main.
C'est plutôt pas mal pour vous.
C'est pas mal, c'est pour ça que je suis impressionné. Vous parlez d'impressionnisme, mais ouais. Moi je suis impressionné. Voilà.
Ouais. L'Australie, justement, vous en pensez quoi? Ce marché à l'autre bout du monde où, en fait, Pommery se comporte plutôt pas mal.
Bah écoutez, j'en suis très satisfait, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que l'Australie, c'est un marché qui se développe d'une manière vertigineuse. Ça va très très vite. Vous êtes passé au niveau de l'Australie du 8e rang au 6e rang en une année. Donc vous avez gagné 2 places en une fois. Si vous faites ça tous les ans, vous êtes bientôt arrivé en tête de liste. C'est formidable. Donc c'est vraiment un marché qui marche très fort, qui est très dynamique. On sent cette impulsion, on sent cette dynamisme. On sent qu'il y a une vraie volonté, les gens ont le plaisir de la fête et tout, et ça c'est, je pense que c'est important, et champagne en fait partie, de ce plaisir. Donc je crois que l'Australie, c'est un très bon marché pour la champagne d'une manière globale, et c'est un très beau marché pour Pommery.
D'accord.
Puisque vraiment, on a commencé il y a très peu de temps, j'irais, à s'implanter ici, donc en Australie, et très rapidement, on a pris beaucoup de parts de marché. J'espère que ça va continuer. On a deux personnes ici qui sont là pour leur en témoigner.
Alors justement, Inge, qui est en charge de la marque ici en Australie, on consomme le champagne différemment en Australie qu'on peut le consommer en Europe ou en France?
Les Australiens consomment, ils ont le plaisir de célébrer, de sortir, de boire. Je pense que l'éducation des vins était d'un niveau assez haut. Par contre, l'étiquette et l'éducation sur le champagne en spécifique, là, on a encore un travail à faire. Mais c'est chouette.
D'accord.
C'est un parcours qui rajoute au challenge, le challenge que nous avons. En Europe, le champagne s'est intégré dans la culture, surtout pour la France et pour la Belgique, d'où moi je viens.
Il y a un petit accent. Hein.
Oui, exactement. Mais dès qu'on sort un peu plus au nord, ça change. Donc, le plus loin qu'on va de la France, le moins que l'étiquette et l'éducation du champagne y est. Mais ça ne veut pas dire que le plaisir d'avoir une bouteille, d'ouvrir une bouteille de champagne, il n'y est pas.
D'accord, mais ça veut dire que pour vous, il y a presque tout à écrire, en fait. Le script est déjà un peu là. Maintenant, il faut continuer à écrire l'histoire au complet, non ?
Exactement. Et là, disons que le but, c'est exactement ça.
Est-ce que le mode, c'est une question ouverte à tous les deux, est-ce que le mode de consommation a changé ? Sur le champagne. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, on verra les tailles de bouteilles changer ? Est-ce qu'il y a aussi une créativité de ce côté-là ? Ou ça, c'est quelque chose qui reste encore très traditionnel ?
Oui, c'est une très bonne question. Je pense qu'avant de se lancer dans les bouteilles des formats plus grands, donc les Magnum, les Jeroboam, des Mathusalem, ça doit être le champagne qui est installé. Donc on a parlé en fait hier du fait que le millésime contre un non-millésime, et c'est avec un non-millésime qu'on doit construire, et puis on rajoute les autres qualités d'une gamme dans une marque de champagne qui viennent d'une maison. Et c'est la même chose avec les formats. Donc où en Europe, de voir un Magnum, un Giro, c'est assez normal, c'est traditionnel. Ici, c'est encore rare, mais ça commence.
D'accord.
Ça commence.
Mais
c'est un très bon signe.
Là, on parle des tailles plus grandes.
Oui.
Est-ce qu'on peut partir sur des tailles plus petites, plus faciles à consommer ? J'incite
absolument.
Pas les gens à consommer. Hein, mais...
Non, absolument.
Je dois
absolument.
Le dire.
Oui. Donc, on peut descendre, on peut avoir les demi-bouteilles, les piccolos. On a une autre création de Thierry qui est le Pop. Mm-hmm. Le Pop, c'est une bouteille piccolo qui se boit avec une paille ou juste de la bouteille. Donc voilà, oui, on voit des évolutions dans tous les sens.
D'accord. Mm-hmm. Thierry, parlez-nous-en justement de cette bouteille Pop.
Pop.
D'où ça vient et pourquoi justement elle est là, cette bouteille Pop.
L'idée remonte à 1995, donc ce n'est pas non plus très récent. Mm-hmm. Et le premier lancement a été fait en 1999. Et pourquoi 1999 ? Parce qu'on voulait, je dirais, donner une nouvelle impulsion de Pommery, puisque Pommery, ça a toujours été une maison qui était vers la créativité, vers l'innovation, et qui est un produit un petit peu, je dirais, non conventionnel. Et donc, on a voulu faire quelque chose de nouveau pour basculer dans le troisième millénaire. Donc, c'était vraiment lancé à cette époque-là, fin 99. Donc, un petit pop, comme on appelle ça comme ça, le petit pop, qui fait 20 centilitres, c'est ce que dit Inge, le piccolo. Et moi, je savais pas que ça s'appelait piccolo. Voilà. Mais voilà, c'est gentil comme nom. Donc 20 centilitres. Et ces 20 centilitres, on voulait que ça soit quelque chose qui soit un petit peu nomade. Pour, je dirais, la consommation, celui qui a envie de consommer du champagne, alors qu'il y avait d'autres invités qui ont envie de consommer d'autres produits, pourquoi pas, on se gêne pas d'ouvrir une petite bouteille. Alors que quand vous êtes tout seul, vous ne commandez pas forcément la bouteille de 75 centilitres. Donc c'était un petit peu cette idée. Là, on voulait également redonner une image jeune au champagne, parce que le champagne était un peu considéré et reste considéré aux yeux des jeunes dans la tranche 20-30 ans comme le champagne, comme le produit consommé par papa-maman. Hein, qu'on ne va pas consommer forcément entre copains. Et donc, ce qu'on voulait, c'était de donner cette nouvelle identité du champagne tournée vers la jeunesse. Donc, c'est d'où un petit peu cette nouvelle création de produit. Donc, qui est un produit facile d'accès, celui-ci, qui n'est pas du tout le même assemblage que sur la Botte Royale. Donc, un produit facile d'accès, avec peut-être une petite dose de sucre supplémentaire pour pouvoir sortir ces jeunes qui consomment des prémix et autres produits assez sucrés. Donc, pour pouvoir les amener facilement vers cette consommation de nouveaux produits. Donc voilà un petit peu ce qui a été fait en 99 et qui a connu tout de suite un franc succès. Bon, on a lancé un petit peu de par le monde d'une manière un petit peu incognito. On est allé dans les boîtes à Ibiza, dans les boîtes à Madrid, dans les boîtes à Tokyo, à Londres, à Paris, bien sûr. Tout doucement, et j'irai, il y a eu ça a créé un certain mouvement. Et aujourd'hui, les ventes de pop continuent à très très bien marcher de par le monde. monde.
C'est pas mal comme boulot, ça.
Oui, c'est sympa. Il y a pire. Je suis dans les vignes pour ma grande partie de l'année. Je suis en cave et en cuverie pour une autre grande partie de l'année. Il faut bien aussi un peu se sortir pour prendre l'air aussi.
Sur une question technique, une personne qui ouvre une bouteille de champagne, le processus pour choisir les grains jusqu'à la production du vin, il se passe combien de temps là? C'est un vin qui a, sur une bouteille normale, je ne parle pas d'un bouteille.
Sur une bouteille normale, il faut savoir qu'en champagne, pour faire simple, vous avez 20 étapes dans l'élaboration d'une bouteille de champagne. Qui est, je dirais, plus du double d'une bouteille de vin tranquille.
Allez-y, je note. Non,
je veux bien, mais par contre, il faut me donner un temps de parole plus long. D'accord, voilà. Donc, vous avez quand même 20 étapes dans l'élaboration. Et je dirais, dans une de ces 20 étapes, il y en a une qui représente, je dirais, un facteur temps très important, qui est le temps de vieillissement de la bouteille en cave. D'où ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il nous fallait des quantités de bouteilles très importantes, je vous ai dit au début de l'entretien, c'est 30 millions de bouteilles dont je vous parle. Parce que les bouteilles de Brut Royal, avant d'être mises sur le marché, elles vont passer déjà 3 ans en cave, sur ce qu'on appelle surlit, c'est-à-dire qu'avec le dépôt de levure qui ont permis la deuxième fermentation dans la bouteille. Donc c'est important de laisser le temps au temps pour que cette lisse, que ces levures libèrent leurs arômes dans le vin. Donc c'est vraiment très important. Cette étape doit être très longue si on veut respecter le produit et avoir un produit qui soit bien fondu, bien élaboré.
D'accord. Ça a été très important de protéger la marque Champagne.
Oui.
Parce que c'est un truc qu'on en a entendu parler en fin des années 90, ça a changé les choses.
Et vous entendez parler encore aujourd'hui. Ce matin, je lisais que la Moldavie avait reconnu le mot champagne dans son pays. Ça vient d'arriver encore aujourd'hui. Donc ça n'arrête pas, si vous voulez, de défendre l'appellation champagne de par le monde pour que réellement, il y ait vraiment une compréhension de tous les consommateurs qu'il y a champagne effervescent. Que je respecte, que l'on doit tous se respecter, et d'un autre côté, vous avez le champagne. Le champagne qui est élaboré uniquement dans une seule et unique région de la France qui s'appelle la Champagne. Donc il n'y a que de champagne en Champagne.
Et ben voilà. Une dernière question, flûte ou coupe?
Alors là, c'est une très bonne question aussi. C'était la question subsidiaire. Voilà. Donc si vous voulez, pour le plaisir de la fête, ça a été la coupe pendant un certain temps. Pour le plaisir de la dégustation, je crois qu'il faut respecter le produit. On est sur un vin. Et ça, j'aime bien le dire et le répéter. Le champagne est un vin. Et donc, vous n'avez pas l'idée de faire déguster un vin dans un gobelet en plastique. Hein. Et ben, je dirais que quelque part, respectant le champagne, mettant-le dans une belle flûte, qui va remettre en avant tous les arômes du produit et qui va vous permettre, bien sûr, d'accepter et d'apprécier cette dégustation.
D'accord. Mais ça peut paraître un peu ridicule comme question, mais c'est vrai que c'est un des rares vins qui a son propre verre.
C'est un des rares vins qui a son propre verre, qui a été, je dirais, dévié au fil des siècles, pas des siècles, on va dire des décennies, pardon, au fil des décennies, parce que ce champagne était habitué à être consommé avec des produits un peu sucrés. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, on allait chez les oncles et les tantes qui vous servaient le champagne dans des coupes, et vous aviez le fameux biscuit rose rémois, hein, c'est donc un biscuit très très sec, et vous pouvez pas, si vous le mangez seul, sinon vous étouffez. Donc, il vous faut quoi? Il vous faut un peu de champagne. Donc, on trempait le biscuit rose dans le champagne. Donc, pour pouvoir le tremper dans le champagne, il fallait des coupes. Hein. Mais c'était dénaturer totalement le produit, ça.
D'accord.
Le biscuit était superbe, mais par contre, le champagne derrière était moins bon. Donc, aujourd'hui, il y a eu un revirement total, je l'ai expliqué tout à l'heure, de par la mise en avant du champagne brut d'année en année. Et d'où la mise en avant du champagne de la gastronomie, le champagne de la table. Et ça, je pense que c'est important d'insister là-dessus. Si vous voulez que demain, on parlait déjà de l'éducation tout à l'heure, si vous voulez que demain, le champagne soit vraiment un produit de la gastronomie dédié à la table, au plaisir de la table et aux combinaisons possibles au niveau culinaire, et Dieu sait s'il y en a dans le monde entier, des possibilités d'association avec le champagne, je crois qu'il faut respecter le produit et le mettre dans le verre adapté.
Et ben voilà, merci, c'était un vrai plaisir de vous parler, Thierry Gasco.
Merci beaucoup.
Et puis Inge, pareil, c'était un vrai plaisir de parler. Si on peut avoir plus d'infos, il y a un site australien sur Pommery?
Oui, donc c'est www.frankenpommery.com.au.
Et ben voilà, on a toutes les adresses. Merci à tous les deux et je vous laisse aller profiter de l'Australie.
Ah bah écoutez, avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill